Demain dans la Terre. On donne la voix à celles et ceux qui participent à imaginer et bâtir dès aujourd'hui l'avenir agricole et alimentaire de nos territoires. Bonjour à toutes et tous, je suis Léa, chargée de sensibilisation pour l'association Terre et Humanisme, et j'anime cet échange sur la thématique de l'eau avec Olivier Hébrard, docteur en sciences de l'eau et agroécologie. Brianne Four, chargée de mission milieu aquatique et agroécologie à l'EPTB Bassin Versant de l'Ardèche, et Arnaud Vance, formateur en agroécologie. La première partie de cet épisode a été diffusée le mois dernier, et voici donc la deuxième partie. Dans cette première partie, nous avons abordé un état des lieux de la ressource en eau sur le territoire sud-ardéchois, ainsi que les menaces et problématiques auxquelles se préparer. Maintenant, place aux solutions pour mieux gérer l'eau. Bonne écoute. Donc tu dis, c'est de la concertation, on se met d'accord pour proposer des choses. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets qui ont été menés par le PTB ou qui sont en cours plus concrètement?
Oui, là typiquement, ce qui va être gestion de l'eau au jardin, mais ça c'est vraiment
C'est de la
sensibilisation. Donc on a vraiment des actions de communication, de sensibilisation du grand public, parce qu'en effet, c'est quand même non négligeable. Je disais tout à l'heure, l'AEP, c'est 71% sur le bassin versant. Alors c'est à peu près moitié-moitié, c'est 56% pour les permanents et 45% pour le tourisme, sachant que c'est presque essentiellement durant les périodes d'étiage où ces 45% sont utilisés finalement. C'est là où c'est un peu compliqué, parce que c'est quand on n'a pas d'eau que les besoins sont forts. Donc voilà, donc là, il y a vraiment un travail à faire avec les représentants du monde du tourisme. Hein, et ça, pour le coup, c'est déjà des choses sur lesquelles on travaille avec eux pour les orienter à avoir une meilleure gestion de l'eau potable, mais aussi du traitement des eaux usées, parce qu'il faut savoir que les eaux usées, après le traitement dans les stations d'épuration, ça revient au cours d'eau. Dans des cours d'eau qui ont des débits très faibles l'été, c'est problématique, parce qu'il y a peu de dilution, et donc on augmente la pollution, et donc l'effet sur les milieux aquatiques, avec
l'eutrophisation,
etc.
On revient aux menaces sur la qualité de l'eau aussi.
On revient sur les menaces sur la qualité de l'eau. Hein, donc il y a l'eutrophisation, il va y avoir ces cyanobactéries, après pour les usagers directement. Et puis, il y a le manque d'eau, il va y avoir en lien avec cette eutrophisation le manque d'oxygène, donc la mortalité pour toute une diversité aquatique. Voilà, on travaille avec les différents acteurs, on peut porter des actions à l'élaboration des plans de prévention de risque d'inondation avec les communautés de communes. Mon collègue va travailler plutôt sur l'aspect quantitatif. D'autres collègues vont travailler plutôt sur ce qui est restauration des milieux aquatiques, justement. Les stratégies de gestion de ces espaces de bon fonctionnement et donc des cours d'eau et ce qui est autour, ce qui permet de maintenir leur fonctionnement jusqu'à la restauration. Et par exemple, si vous passez sur le pont de Saint-Privat, on se demande pourquoi on met un bulle pour aller déplacer des milliers de mètres cubes de sédiments. La rivière Baume au pont de Saint-Privat, elle était calée sur la dalle. Il n'y a plus d'échange entre la nappe et puis finalement les sédiments. Donc l'eau se réchauffe, elle se dégrade en termes de qualité. Elle n'a pas possibilité de se rafraîchir, en tout cas difficilement. Il n'y a plus d'habitat pour la vie aquatique, puisqu'on est sur une dalle lisse où tous les écoulements s'accélèrent. Donc on renforce cette problématique d'incision. On accélère les écoulements aussi en période d'inondation. Ça veut dire plus vite, plus fort pour les villages en aval. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de restaurer ces tapis alluviales pour qu'on ait des échanges entre la nappe, le sédiment et la partie visible de l'iceberg, l'eau qu'on voit dans le cours d'eau, qui est en fait une très petite proportion de l'ensemble de cette quantité d'eau, pour finalement l'épurer naturellement et faire en sorte qu'elle se stocke mieux, qu'elle se rafraîchisse dans ses sédiments. Voilà, même si en effet ça paraît des chantiers un peu démesurés, on peut l'entendre, d'ailleurs c'est le genre de critique qu'on a souvent. D'ailleurs l'idée n'est pas de faire en sorte de mettre ces matériaux ici et qu'ils restent là, c'est vraiment qu'il soit repris par les rivières et qu'il est calé progressivement un peu partout dans les zones où on est déficitaire. En tout cas, c'est une démarche de manœuvre qu'on peut se donner aujourd'hui et qu'on a aujourd'hui pour essayer de restaurer ces milieux qui sont déjà fortement dégradés. Et tant qu'on n'arrive pas à restaurer en tout cas la mobilité ou la capacité à ces cours d'eau de reprendre des sédiments sur les côtés, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on travaille à ça, par exemple, en projet de restauration.
Oui, on vient rattraper des erreurs commises par le passé.
Exactement. Si je peux me permettre, juste pour compléter, et donc les solutions qui viennent d'évoquer, c'est à la fois, ça permet de gérer les excès d'eau et les manques d'eau. C'est ça qui, c'est les solutions, c'est ça qui est génial, c'est qu'on gère les deux problèmes en même temps. Et c'est ça qui est bien. Que ce soit par l'aménagement paysager global des versants ou des zones alluviales, pour les reconnecter avec les aquifères sous-jacents ou qui sont à côté. Ces actions-là permettent à la fois de tamponner très fortement les crues, les épisodes cévenols, et du coup de gérer mieux les manques d'eau l'été. Donc voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'eau qui passe d'un coup, qui fait un hydrogramme de crue, là-bas, au lieu d'avoir juste un pic, on l'étale ce pic, et notamment on rend les étiages avec beaucoup plus d'eau, les rivières l'été. C'est vraiment l'idée, c'est comment on peut la retenir pour qu'elle soit redistribuée et comment on reconnecte sous-sol et surface.
Et alors, en termes de pratiques agricoles, par exemple, ce qu'on peut mettre en place pour stocker l'eau, pour économiser l'eau, pour garder l'eau dans le sol, pour essayer de pallier ce manque ou ces sécheresses ou éventuellement aussi ce trop-plein, qu'est-ce qu'on peut mettre en place?
Alors, parce qu'on voit passer beaucoup de choses actuellement. Voilà, et
alors, les méga-bassines, justement.
Voilà, si les méga-bassines, ça, on oublie direct.
Est-ce que tu peux nous dire juste en deux mots, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce qui pose problème, en tout cas, selon toi, et puis selon l'agroécologie, en tout cas, telle que Terre Humanisme l'a
voilà, oui, sur les méga-bassines, en gros, déjà, c'est un stockage sur bâche, aérien, ou soit en ponction de l'eau. Alors, théoriquement, l'hiver, quand il y en a trop, soit dans les fleuves ou rivières, soit dans des aquifères, mais ça a été beaucoup dans les aquifères. Et cette eau, donc ces grandes masses, sont à l'air avec une évaporation très conséquente, la production d'algues, voilà. Et souvent, très souvent, elles cautionnent des systèmes qui sont déjà plus fonctionnels, des systèmes agricoles qui sont dépassés. Je vais parler de ce que je connais chez moi. Je suis du département de l'Hérault, comme ça je ne me fais pas critiquer ici. Sur la vigne, voilà, on irrigue de plus en plus la vigne dans l'Hérault, et souvent... Alors, je ne suis pas contre l'irrigation sur la vigne, mais c'est à des moments bien précis, de manière très parcimonieuse. Mais aujourd'hui, on utilise l'irrigation pour faire du volume, pour produire en masse, etc., que l'on va distiller ensuite. Et donc, souvent, les bassines vont cautionner un système agricole qui n'est pas du tout résilient. En fait, c'est l'ensemble sur chaque niveau où ça ne va pas. Alors qu'on infiltre mieux l'eau, elle est dispo dans les aquifères, etc., alors qu'il y a beaucoup de potentialités à ce niveau-là. Et ensuite, en phase, il faut mettre des agricultures qui se justifient, qui vont être plus en phase avec le climat, voilà.
Donc, par exemple, des nouvelles essences végétales, nouvelles productions.
On vient de plus en plus sur l'amandier. Bon, la vigne, on peut tout faire avec. Soit on part dans les travers de mettre de l'eau, de la faire n'importe comment. On gère mal les sols, on prend des cépages qui ne sont pas du tout résistants à la chaleur, etc., avec des pratiques... Enfin, tout ce que la modernité agricole nous a amené. Soit, si on met tous les éléments, par exemple, sur la vigne, bout à bout, plantés sur des terrasses, sur des courbes de niveau, des cépages qui sont résistants, si on plante les porte-greffes sur place, qu'on greffe dessus, ça, c'est un des principaux leviers, par exemple. Tous les anciens faisaient ça, et la vigne résiste beaucoup plus, comme ça, au niveau de l'eau. Elle va raciner en profondeur plutôt que sur le côté. Donc, il y a ces choses-là qui sont des leviers assez puissants. Ah, et bien évidemment, après tout ce que vous faites à TH, ça, c'est le gros levier ultra puissant. Ben voilà, c'est la vie du sol, les sols couverts, les couverts végétaux. C'est le premier levier, c'est quand il pleut, que l'eau ne ruisselle pas, qu'elle soit bloquée et que, en fait, un peu, s'expliquait Brian, au niveau des cours d'eau, c'est le faire au niveau de chaque centimètre carré de sol. En fait, l'eau, elle tombe, elle ne doit pas ruisseler dans la nature, de manière naturelle, et presque sous chaque latitude à la base. C'est même un milieu semi-aride. Il y a des essences végétales qui étaient censées s'adapter, qui cassaient ce ruissellement, qui bloquent l'eau, qui s'infiltrent, etc. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Aujourd'hui, quand ça ne suffit pas, ou dans certains cas, après, on pourra ajouter des aménagements type baissière. C'est comme des fossés où on va bloquer l'eau dans le paysage sur les courbes de niveau pour qu'elle soit freinée, donc elle stagne, elle est redistribuée, elle met du temps à s'infiltrer. Donc là, elle va mieux recharger nappe, elle va dynamiser l'aval. Mais ce type d'ouvrage demande une certaine technicité. Il faut avoir une bonne connaissance de la géologie sous-jacente, du sol, du contexte climatique. Voilà. Et aujourd'hui, un des travers, c'est qu'on voit beaucoup d'improvisation. Des non-experts sur ce type de pratique, où c'est pas évident.
Et alors, quelle serait la solution? Il faudrait accompagner le monde paysan pour leur expliquer comment faire des baissières.
Ouais, mais la priorité, c'est déjà arriver à bien gérer les sols. Déjà, si tous les paysans,
c'est la base,
ou les agriculteurs au sens large, arrivaient à bien gérer leur sol, avec des sols vivants, couverts une grosse partie de l'année, des petites parcelles, maximum de haies, enfin voilà, ce qu'était l'agriculture avant, déjà, on rend les milieux beaucoup, beaucoup plus résilients. Ensuite, les aménagements peuvent être complémentaires. Ici en France, encore sous nos latitudes, c'est la dernière situation. Moi, c'est plutôt au niveau des PO, voilà, ou de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ici, si on gère bien les sols, on a encore de la marge de manœuvre. Parce que, en fait, si on fait des aménagements un peu lourds comme ça, le risque, c'est OK, on va bien gérer l'été, on retient bien l'eau, etc. Mais l'hiver, il y a le risque de saturation. Donc, dès lors qu'une zone est argileuse, pleine nord, le moindre ouvrage mal disposé, c'est ce qu'on appelle l'hydromorphie. Les sols vont être saturés en eau. Alors que quand on gère bien avec la vie des sols, comme dans les jardins de Terre Humanisme, ça se gère par eux-mêmes, les excès et les manques d'eau. Et c'est ça qui est chouette. Après, il faut multiplier les mares, etc. Je laisse un peu là, je ne veux pas monopoliser la parole.
Et puis, on pourra donner aussi la parole à Arnaud sur...
Moi, je parle plutôt des jardins. Voilà. C'est une échelle plus petite.
On y viendra juste après,
Brian. Ouais. Juste, si je peux rebondir, en effet, ces baissières ou même les béalières, en fait, ça peut avoir un intérêt, mais en effet, sur nos contextes climatiques, ça peut aussi être problématique parce que l'été, il y a assez peu d'eau dans les cours d'eau. Si on continue de la diviser, donc voilà, on sait qu'au moment où l'agriculture en a besoin, c'est là où finalement, on n'a plus beaucoup d'eau déjà dans les milieux aquatiques. Mais l'idée, ce serait plutôt de les connecter peut-être au début de printemps, lorsqu'il y a encore assez d'eau, pour justement favoriser l'infiltration d'eau dans les territoires. Et après, on les déconnecte des cours d'eau, parce que là, c'est bien problématique et critique pour ces milieux aquatiques qui sont déjà en fragilité. La première entrée, avant d'aller chercher de l'eau qui y passe, etc., c'est vraiment, en effet, de stocker celle qui tombe à l'endroit où elle tombe. Un sol riche en matière organique, il a une capacité de stockage d'eau qui est beaucoup plus importante qu'un sol minéral. D'ailleurs, un sol minéral, il n'a pas grand intérêt, même pour les plantes. Donc, de toute façon, on a tout intérêt à favoriser un retour, je dirais, progressif à la quantité de matière organique qui est dans les sols, qui a été, durant les 70 dernières années, très fortement dégradée, ce qui n'était pas du tout le cas avant, et ce qui cause aussi derrière un problème de stabilité, qui renforce finalement l'érosion de ces sols-là, et donc diminue leur capacité à stocker de l'eau. Donc en effet, la première entrée, c'est bien, dès qu'on peut le faire, il va falloir essayer d'avoir une structure racinaire qui permet facilement de capter l'eau, de la faire descendre le long des racines, qu'elle se stocke dans le sol et pas qu'elle retourne directement au cours d'eau et qu'elle traverse notre territoire et qu'elle parte jusqu'à la mer. Après, bon, si on en revient un peu aux actions qu'on peut porter, on a justement un projet que je présentais en introduction sur les paiements pour services environnementaux. Bah, c'était un petit peu l'objectif qu'on sous-tendait de se dire il y a plusieurs indicateurs de performance des exploitations agricoles qui ont contractualisé. Et l'objectif, c'était bien de les rémunérer pour améliorer leurs pratiques, pour accélérer la transition agroécologique à l'échelle du territoire. Et sur plusieurs entrées, l'entrée qualité des milieux, puisqu'il y a un indice de traitement herbicide. Donc l'idée, c'était d'utiliser moins d'herbicides dans les milieux aquatiques. Il y avait le pourcentage de couverture du sol, il y avait la quantité d'azote minéral utilisée. L'idée, c'était pas de plus utiliser d'engrais, mais par contre d'aller plutôt sur des engrais organiques. Et voilà, donc il y avait tous ces indicateurs-là, et imparfaitement, on a essayé de faire en sorte d'aller vers cette transition, et globalement, on a quand même des retours qui sont assez intéressants, hein. Juste pour en présenter deux ou trois, le pourcentage de couverture du sol, il a augmenté de 4,5% dans les exploitations.
Donc là, on parle du territoire
Ouais, les 30 exploitations qu'on suit sur le bassin versant de l'Ardèche, qui représente 30 exploitations pour 1600 hectares.
Donc, ces exploitations étaient volontaires pour participer
à ce projet. Okay. Et donc, ça, c'est juste couverture du sol. Après, si on prend l'azote minéral, forte diminution, puisque en moyenne, c'est moins 54% d'utilisation d'azote minéral. Et la médiane même, du coup, ça dépend des exploitations, c'est moins 88%. Donc, ça devient assez énorme. Et surtout, par exemple, c'est 13 exploitations qui n'utilisent plus aujourd'hui d'azote minéral contre 6 au lancement. Et puis après, si je prends fréquence de traitement herbicide, là c'est pareil, c'est une diminution de 50% en moyenne, une médiane à moins 60%. On passe même 6 exploitants qui ont complètement réussi à sortir de l'utilisation finalement des herbicides. Donc voilà, après resterait honnêtement à comparer avec les données du territoire, parce qu'on n'a pas ces données-là, en tout cas on n'a pas eu le temps de faire le bilan. Mais là on arrive à la 4e année sur 5. Et finalement, on se dit qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Voilà,
oui, c'est pas rien.
Une petite pierre à l'édifice. Sur 1600 hectares, voilà, ça commence à compter un petit peu.
Et alors, dans les autres actions qui peuvent avoir aussi un effet, donc on a le jardin, puisqu'on sait aussi que jardiner, ça peut participer à faire revenir la biodiversité, favoriser la qualité des sols, de l'environnement, etc. Donc Arnaud, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur les usages de l'eau aussi au jardin?
Avec plaisir. Il y a pas mal de similitudes à prendre entre le jardin et l'agricole de toute façon. Peut-être juste pour rebondir juste sur une pratique agricole, donc on n'a pas évoqué, mais j'y ai pensé, peut-être certains connaissent l'ABC, donc l'agriculture biologique de conservation. Ça, c'est une grande pratique relativement peu développée en France, mais beaucoup plus, par exemple, aux États-Unis notamment, où ils sont largement en avance sur ce genre de choses, où en fait, on vient complètement arrêter le labour. Du coup, forcément, qui arrête du labour dit meilleure vie du sol, moins de minéralisation, donc plus de matière organique, l'aspect érosif qui diminue, donc potentiellement plus de stockage. Enfin voilà. Mais bon, ça demande effectivement du nouveau matériel, de la formation. Donc c'est quand même des assez gros changements pour l'agriculture, mais en tout cas l'ABC, il y a beaucoup de gens, de plus en plus en tout cas en France, qui réussissent à la fois faire de l'agriculture biologique et à la fois ne pas labourer. Et voilà, c'est un peu le Graal, on peut dire, en termes de solutions agricoles. Pour le coup, un jardinier au jardin, ça, on y arrive très bien, parce que voilà, on est sur des petites parcelles, on peut beaucoup plus, on a du temps, on a moins la pression de rendement entre guillemets, donc voilà, on peut se permettre d'avoir des très très bonnes pratiques au jardin. Et comme le disait Olivier tout à l'heure, effectivement, en agroécologie, la priorité avant tout, c'est avoir un sol vivant au maximum. Mais ça, c'est un peu ce qu'on en agricole, c'est pareil. Hein. Essayer d'avoir un couvert végétal au maximum à l'année. Donc là, par exemple, on est en ce moment au mois de septembre, ici au jardin pédagogique à La Blachère, on est en train de recycler nos cultures d'été en forme de compost, qui sera utilisé du coup l'année prochaine, au printemps. Et donc, du coup, nos parcelles qui se libèrent, on est en train de passer petit à petit en engrais vert. Donc un engrais vert, c'est quoi? C'est un mélange de plantes, minimum céréales légumineuses, c'est la base, qu'on implante là, qui est le temps justement de s'implanter avant l'hiver. Il va continuer à faire de la photosynthèse tout l'hiver, à grandir, à protéger le sol. Et en fait, l'intérêt de l'engrais vert, donc cette couverture végétale vivante, c'est que l'intégralité de la plante ne va pas être utilisée pour se nourrir nous-mêmes, hein, c'est pas un légume, mais par contre, ça va être nourrir le sol. Donc l'intégralité de ce couvert végétal va être, ça peut être fauché, ça peut être écrasé, occulté, enfin, de différentes manières. Va être l'intégralité de la partie, à la fois les feuilles, mais aussi les racines, hein, qui sont très importantes, vont être complètement décomposées par la vie du sol au printemps. Et derrière, on aura augmenté le taux de matière organique du sol, on aura nourri le sol. Quand on dit nourrir le sol, en fait, c'est nourrir la vie du sol, donc les bactéries, les champignons, les vers de terre. Le ver de terre, par exemple, très important, notamment par rapport à la gestion de l'eau, différents types de vers de terre, mais si on prend le ver de terre commun qui fait des galeries verticales, il va permettre à l'eau de pénétrer dans le sol aux profondeurs et d'être connectée au milieu derrière.
Donc la technique des engrais verts, elle est aussi utilisable en agriculture.
Oui, pour le coup, dans les deux cas, dans les deux cas, il y a vraiment des grandes similitudes. Oui. On parlait beaucoup de la vigne. Là, c'est quand même des nouvelles pratiques qu'on voit en vigne de plus en plus. Effectivement, les rangs de vigne où le sol est laissé à nu une grosse partie de l'année, on en a parlé, ça pose souci. Les enherber au maximum à l'année, ça c'est l'idéal. Et de plus en plus, il y a des agriculteurs du coup qui se mettent à la fois à mettre des couverts végétaux d'hiver, souvent avec beaucoup de mélange de légumineuses. Ça, l'intérêt de la légumineuse étant que ça, la plante va stocker de l'azote de l'air via une symbiose qu'elle a avec des bactéries dans le sol, et du coup ça limite les apports d'engrais chimiques, qui sont en général beaucoup plus lessivables et donc du coup qui impactent la qualité de l'eau aussi. Et donc ces couverts végétaux en vigne, ils ont tout un tas d'avantages, et en plus ils permettent aussi de limiter les apports en engrais aussi azotés chimiques au printemps, et ça c'est intéressant. Je vais parler d'ombrage, d'ombrière. Alors ça, en agricole, c'est quand même, vu qu'on est vraiment sur des grandes surfaces, c'est quand même plus compliqué, même si certains y viennent. Et ça pose aussi d'autres problématiques, on va dire. Ça peut être aussi controversé, d'ailleurs, le photovoltaïque agricole. Bon, ça, c'est encore peut-être pas le temps de rentrer dans toutes les controverses, mais...
Non, on n'aura pas le temps.
En tout cas, au jardin, nous, avec les changements climatiques, partout en France, mais notamment ici, on est quand même en climat méditerranéen, hein, surtout l'été, on a dû apporter, en plus de l'agroforesterie, donc la présence de l'arbre avec les légumes en dessous, en plus de ça, on a dû, depuis une des années, rajouter de l'ombrage via des structures, des ombrières, que ça soit en canis, des ombrières avec de la vigne, avec de la passiflore, avec différents types de plantes, que ce soit des canis ou des toiles d'ombrage qu'on vient mettre en juillet. Et ça, pour le coup, ça fait une dizaine d'années qu'on a vraiment augmenté la quantité d'ombrage, justement pour diminuer les apports, moins d'évapotranspiration et puis moins de réchauffement du sol, hein, ça permet de garder un peu plus l'eau, d'avoir des plantes moins stressées. Olivier, tout à l'heure, parlait un peu de la physiologie des plantes là, qui sont impactées beaucoup par des températures qui explosent maintenant l'été. Tu disais, il y a quelques dizaines d'années, il y a 50 ans, on dépassait rarement les 35 degrés l'été, et là maintenant ça devient presque la norme. Effectivement, ça devient compliqué pour des légumes d'avoir des températures trop hautes, donc apporter de l'ombrage, ça fait vraiment partie des aménagements faciles à mettre au jardin qui deviennent très importants maintenant.
Et puis en termes de récupération des eaux de pluie, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à faire aussi pour les particuliers.
La majorité de l'eau qu'on stocke ici vient des épisodes cévenoles, justement. Plus la Méditerranée est chaude, plus on peut avoir des épisodes cévenoles sévères derrière. Qui dit Méditerranée plus chaude, dit plus d'eau qui s'évapore. Et donc potentiellement, cette eau, elle retombe à un moment donné, et donc elle va retomber sur les Cévennes. Et donc nous, on essaye de récupérer cette eau en excès dans une des grandes cuves qu'on a dans les jardins. Et donc là, par exemple, ça fait 2 années de suite qu'on a tellement des gros épisodes en octobre-novembre qu'en fait, on remplit notre cuve intégralement en 2-3 épisodes cévenoles. C'est-à-dire que toutes les pluies derrière, on n'a pas récupéré. En tout cas, c'est reparti dans le paysage, que ça suffisait. Et donc l'intégralité ici des toitures, même de la serre, du tunnel, de différents bâtiments, on récupère l'eau. On a aussi certains ruissellements, parce qu'on a des zones des jardins ici où on a tellement peu d'épaisseur de sol que quand il pleut 100 mm d'eau, on a quand même des ruissellements, même si on a des sols qui sont améliorés, même si on a des bons aménagements. Donc on récupère une partie de ruissellement. Et enfin, toutes les eaux utilisées ici passent dans une phytoépuration. On consomme environ 150 mètres cubes du réseau potable par an. Et donc l'intégralité de ces eaux usées traitées part dans une mare à la fin. Et le surplus de la mare, alors on ne le fait pas tous les ans, mais on se permet parfois d'utiliser de l'eau de cette mare, du coup, pour irriguer les jardins. Mais en gros, c'est un bonus qu'on se permet les années où on en a besoin.
Et donc, les particuliers, à leur échelle, peuvent aussi créer une mare au jardin, par exemple.
Bah alors, la mare, effectivement, on appelle ça aussi des jardins de pluie, c'est-à-dire des mares pas forcément permanentes, qui sont connectées du coup au milieu, ce qui permet justement qu'on a des gros excès d'eau, d'amener ces eaux au lieu qu'elles ruissellent et qu'elles éventuellement inondent en dessous le voisin, de les stocker temporairement chez soi et qu'elles aient le temps justement de s'infiltrer, d'hydrater le paysage, le milieu, et puis voilà, d'alimenter potentiellement les sources en aval. Et après, bah, quand c'est possible, stocker de l'eau dans des cuves, dans ce qu'on a. Il y a de plus en plus de communes qui aident les particuliers avec des petites subventions pour s'équiper de ce genre de cuve. Et on le dira jamais assez, vraiment, l'eau de pluie, c'est vraiment la meilleure eau qu'on a au jardin, de toute façon. Elle est peu chargée en sels minéraux et autres, contrairement à des eaux de forage ou même à des eaux du réseau. Pas de risque de salinisation des sols, elle est a priori pas polluée. Donc, vraiment, l'eau de pluie, c'est la meilleure eau qu'on ait pour l'irrigation et surtout au jardin. Donc, faut vraiment pas se priver de la stocker quand on peut chez soi.
Merci Arnaud. On arrive bientôt à la fin de ce temps, de cette rencontre. J'ai envie de vous redonner la parole un peu à tous les deux, Brianne et Olivier. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, sachant que le sujet, c'est aussi la résilience de nos territoires. Donc, qu'est-ce qu'on peut porter comme message pour nos auditeurs et auditrices à ce sujet?
À la première, ça va quand même être la sobriété. Il va falloir qu'on en passe par là. Ça ne suffira pas. Tout le monde fasse un effort, en effet, sur la sobriété. En effet, récupérer l'eau de pluie, surtout sur la période, en effet, automnale-hivernale, lorsqu'il y en a beaucoup. Mais par contre, essayer de déconnecter un peu ça du réseau en période estivale pour que, justement, ça reparte quand même au milieu. Mais ce n'est pas uniquement cette eau-là, c'est aussi notre vie de tous les jours. C'est les douches, ça va être...
les piscines.
Les piscines, par exemple. Mais là, typiquement, on a un travail avec les collectivités territoriales lors de la révision des PLUI pour essayer d'aller réfléchir à comment on peut essayer de contraindre, entre guillemets, la création de nouvelles piscines. Alors, des choses comme ça. Donc après, ça se construit petit à petit, on ne le fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, on va dans ce sens-là. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Je pense que ça va dans le bon sens. Donc ça, c'est les premiers éléments. Après, il y aura certes d'autres choix plus globaux à faire sur quelle agriculture est possible dans des contextes météorologiques, typiquement ici, dans les Cévennes. Et je pense qu'en effet, même si on améliore la qualité des sols, etc., ce ne sera peut-être pas suffisant. Donc en effet, avoir une bonne réflexion aussi et ensuite mettre ça en action, ce n'est pas irréalisable. On a encore une marge de manœuvre qui n'est pas négligeable, mais il ne faudra pas trop attendre.
Merci. Olivier, la note finale?
C'est pour compléter, Brianne, c'est exactement ça. C'est la sobriété. Le premier levier, c'est la sobriété et la sobriété surtout. Alors sur la consommation locale, bien évidemment... je me suis amusé, nous on est 11 foyers là où on est en toilette sèche, sur une année c'est 500 mètres cubes d'économisés. En gros, c'est quasiment le volume de la cuve de TH en eau, donc c'est quand même colossal. Et ensuite c'est chaque geste, enfin voilà, on peut vraiment réduire très 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 fortement sa consommation d'eau, mais c'est valable pour ça, pour les légumes qu'on achète et pour tout ce qu'on achète, c'est-à-dire acheter quelque chose qui est fait à l'autre bout de la planète, comme la fast fashion dont on a beaucoup parlé aussi.
La consommation de viande aussi.
Voilà, de viande, tout ça, mais après la viande, si c'est une viande qui pâture, viande où c'est des animaux qui sont en plein air intégral, en montagne, juste à côté, au final l'impact il est faible. Mais si c'est la viande, un McDo ou un truc équivalent, intensif, voilà, c'est pas du tout le même impact. Mais après, c'est aussi tous les impacts de tout ce qu'on achète, un jean, un t-shirt, et voilà, et aujourd'hui, tout accélère.
Tout consomme.
Et ce qu'on va acheter, on va impacter aussi les cycles d'eau douce de l'autre bout de la planète. Donc il y a ça, et donc il faut aussi se dire, c'est pareil, on parle de l'eau, mais un des principaux facteurs aggravants, ça va être l'augmentation des températures que j'évoquais tout à l'heure, qui va se répercuter différemment selon les territoires, mais en termes d'évaporation, d'humidité, etc. Quand je vois des gens qui sont en plein soleil, dans leur clim, à l'arrêt, sur un parking, et qui sont dedans à faire tourner la voiture juste pour avoir la clim, voilà, ça, c'est le summum voilà, de,
je suis désolé,
de ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Et tout ça, en fait, c'est mis bout à bout. En fait, chacun de nos gestes a un impact. C'est vraiment de se dire, purée, maintenant, il faut qu'on soit tous résilients. Mais si on met tout bout à bout, il n'y aura pas de souci, ça va le faire. Mais voilà, tant qu'on fera des bêtises, ça ne le fera pas. Donc,
Et à la fois, chacun de nos gestes a un impact, mais il y a quand même des gros gestes qui ont plus d'impact que certains qui ont plus petits gestes.
Voilà, mais c'est comme ça, enfin, des petits gestes aussi qu'on va inspirer d'autres, à peut-être dire qu'ils font des gros gestes ou dire « Ah, peut-être
qu'on peut faire autrement. »
On peut faire autrement, peut-être. Donc, mais en tout cas, on a les moyens de changer le monde, mais voilà, il faut qu'on s'y mette toutes et tous.
Tous autour de la table.
Oui, et avec plein de leviers différents.
On espère que cet échange, en tout cas, permettra peut-être d'ouvrir encore plus les yeux à des personnes qui nous écouteront. Puis sinon, ça sera qu'une goutte d'eau au milieu du reste. Merci en tout cas d'avoir participé, de nous avoir donné des petits éclairages en plus
merci.
Sur l'eau.
Et merci pour l'invitation.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.